Matière à penser, Patrick Boucheron.
Dernier volet aujourd'hui de notre semaine consacrée à écrire la guerre. Et au théâtre, quelle guerre s'écrit? Laquelle se dit? Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir l'acteur et metteur en scène Thomas Joly. Bonsoir Thomas Joly.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Alors on dit de vous que vous êtes une machine de guerre. Depuis que vous avez fondé à Rouen, hein, c'est ça, la Piccola Familia, oui. Eh bien vous n'arrêtez pas. Et machine de guerre, mais contre qui et pourquoi?
Alors oui, une machine de guerre, effectivement, je pense qu'on dit ça parce que j'avance en tout cas. Voilà. Alors contre qui? Contre personne. Et pourquoi? Pour que le théâtre advienne. Oui, dès que j'ai un désir, et parfois, et souvent d'ailleurs, des désirs assez, non seulement irrépressibles, mais des désirs assez fous. Je pense par exemple à Henri VI, qui durait 18 heures, ou des pièces que j'appelle moi du théâtre impossible, c'est-à-dire des pièces qui nous posent des problématiques ou des énigmes passionnantes en tout cas à résoudre. Eh bien, mon désir étant si fort, il écrase tout sur son passage. Peut-être que c'est pour ça qu'on dit ça.
Alors on parlait la fois d'avant de notre besoin d'histoire. Vous avez eu un désir de théâtre très tôt, vous pouvez en parler?
Ouais, très tôt. C'est d'ailleurs assez énigmatique parce que j'étais un petit garçon dans un village avec des parents
en Normandie.
En Normandie, tout à fait, avec un père imprimeur et une maman infirmière. On n'allait pas tellement au théâtre, on n'allait pas trop au cinéma, mais c'est un livre qui est entré dans ma bibliothèque de Pierre Gripari, cette farce pour écolier.
Donc, oui.
C'est une toute petite pièce que je montais avec mes amis dans ma chambre le samedi après-midi, avec ma sœur aussi, qui a quand même été mon actrice principale pendant longtemps. Et assez rapidement, il a été clair pour moi, peut-être aussi le côté machine de guerre, que je ferais ça de mon métier, que je serais acteur et que mes parents m'ont laissé faire et m'ont poussé, enfin en tout cas m'ont accompagné, m'ont encouragé, jamais eu de frein à ça. Et assez, notre besoin d'histoire, alors bon, là c'est pas la grande histoire avec un grand H, mais en tout cas le théâtre à mon avis vient de là, de la petite histoire, de se raconter des histoires. Moi je crois que si le théâtre, parce qu'on peut en parler de ça, est là depuis 2500 ans.
Oui.
C'est un miracle, moi je trouve, qu'après tous ces siècles de révolutions technologiques, religieuses, philosophiques, esthétiques, politiques, etc., qui lui sont passées dessus, artistiques aussi, l'invention du cinéma par exemple, d'Internet récemment, eh bien il est toujours là, et les gens viennent dans une salle, dans le noir, maintenant dans le noir,
oui.
En tout cas, écouter des histoires racontées par d'autres vivants. Alors, c'est bien, certainement, il y a quelque chose dans cet art-là qui est irremplaçable et qui est, je pense, notre besoin, en tout cas, d'histoire, de petite histoire, en tout cas, de narration, l'histoire, de récit, notre besoin de récit.
Et d'augmenter, d'élever notre expérience, et c'est là où on rencontre le passé, peut-être.
Certainement. Aussi, peut-être, et peut-être que ça va avec... l'explosion des séries télé, etc.
Oui.
Peut-être parce que le récit est flou. Le récit d'avenir, en tout cas, en ce moment, est un peu flou. Écologiquement, c'est flou. En tout cas, c'est angoissant. Politiquement, c'est flou. C'est aussi angoissant. Et peut-être alors que le théâtre et toutes ces histoires et ces narrations et l'expérience vécue, partagée, et puis les séries, les livres, les grandes sagas littéraires ou cinématographiques, bizarrement, on se réfugie, comme à d'autres époques. Je crois que pendant l'occupation, par exemple, les livres, les ventes de livres avaient complètement explosé. Comme voilà, ce besoin de que l'art, en tout cas dans l'art, dans le théâtre, on puisse avoir un réconfort, peut-être même une réconciliation avec
Alors
avec
on va parler de ça, de la réconciliation, même peut-être de la réparation. Mais pour l'instant, on est à Rouen avec
on est
vos
toujours
amis.
À Rouen, oui.
Vous fondez une compagnie, la Piccola Familia,
ouais.
Et le premier spectacle, c'est celui que vous reprenez justement en ce moment. C'est Harlequin poli par l'amour, Marivaux.
Ouais.
Tout commence très joliment. Là, on n'est pas encore dans la guerre.
Non.
Ou alors dans une guerre.
Une guerre de sentiments. Oui,
oui,
on peut le dire parce que mais c'est même pas une guerre parce que c'est vraiment la découverte. C'est une des premières pièces de Marivaux et c'est la découverte du sentiment amoureux chez les personnages. Et ça, c'est ce qui sait faire de mieux. C'est-à-dire que c'est l'un des auteurs qui a, pour moi, en tout cas, le mieux décrypté le sentiment amoureux, même si Roland Barthes a fait des choses pas mal après. En tout cas, Marivaux a été, je crois, le chirurgien de l'amour au 18e. Et en 1720, il écrit cette petite pièce pour des comédiens italiens qui ne parlent pas bien français. Et donc, il leur fait un texte très très court, très ramassé. Pourtant, tout Marivaux est déjà là. Et ça a été mon tout premier spectacle.
Vous jouez dedans?
Où je jouais dedans à l'époque, puisque c'était il y a 13 ans. Et en 2006, on se réunit pour monter cette pièce. Et en fait, depuis 13 ans, il n'a pas quitté les routes. Donc, il y a maintenant 6 ans, j'ai cédé le spectacle à une deuxième distribution.
Et là, Thomas Joly, il est encore en tournée?
Il est toujours en tournée, il vient de passer un mois à Paris et puis il continue sa route un peu partout en France. Si vous voulez tout savoir, Patrick Boucheron, je peux vous le dire, il va passer par Vesoul par exemple, par Mont-de-Marsan, par Boulogne-Billancourt, Béziers, les Sables-d'Olonne, Toulon, Namur, Saint-Germain-en-Laye, Châlons-en-Champagne, Vannes.
Voilà, bon, et puis alors après ce coup d'essai, on va dire, on dit mais c'est très bien, faut peut-être continuer comme ça, Marivaux, et non. Là, on tombe sur un os, et effectivement, c'est 18 heures shakespeariennes d'Henri VI, donc en plusieurs parties, de 2012, 2014, et puis ensuite en Avignon. À un moment, il y a la rhapsode qui vient au bout de deux scènes en disant, vous savez, il y en a encore 78 derrière, c'est ça, va être très très long, j'espère que vous êtes bien assis. Qu'est-ce qui vous a pris?
Ah, écoutez... Comment vous dire, Patrick Boucheron? Je découvre cette pièce en 2004, je suis sidéré, je ne pensais pas qu'il y avait dans le répertoire théâtral mondial une pièce de cet ordre-là. C'est trois pièces, trois fois cinq actes, qui retracent une vie entière.
Donc c'est un jeune homme, vous, qui découvrez aussi un jeune auteur, parce que c'est Shakespeare, c'est son premier cycle, hein,
exactement,
faut le dire.
Exactement. On parle d'Henri VI, mais on pourrait aussi parler de Richard III, puisque c'est donc avec Richard III qu'il écrit cette grande première tétralogie. Et quand je lis ça en 2004, je suis sidéré qu'on puisse faire ça. Et je pense aussi qu'il nous raconte l'histoire d'une vie, donc du roi Henri VI, ça va de 1422 à 1471, donc, au moment où il meurt. Mais il nous raconte aussi l'histoire d'un monde entier. C'est là où il est complètement bluffant, c'est qu'il nous parle de toute l'histoire de ce royaume qui s'écroule et qui va faire advenir sur son trône un monstre, le futur Richard III. Parce que après j'ai monté Richard III, donc on peut dire qu'en gros j'ai retracé...
La longue préhistoire d'un monstre.
Ouais,
en fait.
C'est ça, 1422-1485 je crois, il meurt Richard, ouais c'est ça Richard III. Donc du coup on a, 63 années de règne et d'histoire d'un pays. Alors, je dis histoire, mais...
Bah, c'est l'histoire au sens... Qu'est-ce qui intéressait d'ailleurs Shakespeare cette histoire qui était déjà ancienne pour
lui ? Déjà, il y a cette petite, ce petit fait qui n'est pas anecdotique du tout, c'est que la reine Elisabeth, qui vient d'arriver au pouvoir dans des conditions dont on sait un petit peu problématiques, un peu conflictuelles, a besoin d'asseoir son règne. Et elle commande les premières chroniques historiques de l'histoire anglaise, donc, à Léon Lynched, et il s'en saisit, Shakespeare. Oui. Donc c'est des chroniques qui sont assez dirigées, et... sur la famille, sur les Plantagenets, qui sont plutôt assez, sur la famille York, en tout cas, assez dur, et d'ailleurs Richard III, qui est censé être ce monstre difforme, etc. On a retrouvé son squelette, il y a quoi, 3, 4, 5 ans, dans un parking, et bon. Oui, il avait une scoliose, une bonne scoliose, pas plus que ça. Donc voilà, il se saisit de cette matière-là, et des témoignages de l'époque, disent que, il faut s'imaginer, sans la télévision, sans Internet évidemment, enfin je vous apprends rien, de voir l'histoire incarnée, l'histoire du pays incarnée en chair et en os devant les spectateurs.
Et ça vous adorez, hein, le théâtre élisabéthain, vous adorez ça comme dispositif. La guerre d'ailleurs ne se joue pas, elle ne se représente pas, elle se dit.
Oui, alors ils sont malins hein, ces auteurs, parce qu'il n'est pas le seul à le faire. En gros, dès que quelque chose est irreprésentable... parce que démesuré, eh bien souvent c'est un messager qui arrive de la coulisse échevelé, essoufflé et nous dit « Je reviens du champ de bataille, et alors là j'ai vu 10 000 soldats, etc. » On pense évidemment aussi au prologue d'Henri V, qui pose immédiatement la convention où il dit « Voilà, vous devrez, nous sommes 10, vous devrez nous multiplier par 1000, nous n'avons pas de chevaux, mais quand nous chevaucherons des bouts de bois, vous devrez imaginer que nous sommes une armée à cheval, nous ne savons pas manier l'épée, mais avec nos épées de bois, il faudra imaginer que, voilà. Donc il part du principe de ce que le spectateur participe à la représentation de la guerre, et il y a le récit. Les récits très longs de messagers comme ça, de longs monologues qui retracent précisément des faits. Et du coup, ça pour les acteurs, c'est assez passionnant parce que, et pour le metteur en scène que je suis aussi, parce que il n'y a rien à faire de visuel. Par contre, il y a pour l'acteur à inventer et à se représenter mentalement les événements pour que le spectateur puisse lui-même se les représenter mentalement. Ça s'appelle la fantasia, ce que les Grecs appelaient la fantasia, c'est-à-dire la façon de pouvoir se représenter des événements juste par les mots.
Alors comme ça durait 18 heures, il y avait plusieurs manières de faire, évidemment. Ouais, variez vos effets, il y a parfois des moments chorégraphiés, parfois farcesques, mais enfin on est quand même dans une guerre sérieuse, la guerre du 15e siècle, qui est tragique. Il commence à y avoir effectivement cette question de la violence qui sourd dans votre théâtre, Thomas Joly. Puis il y a Jeanne d'Arc, tiens, qui arrive avec les cheveux bleus, une très belle Jeanne d'Arc. Et qu'est-ce que ça vous faisait, vous, quand vous étiez à Rouen, enfant?
Jeanne d'Arc, ça, oui, forcément. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous me dites, Patrick Boucheron. Effectivement, il y avait les récits de guerre. Donc là, pour le coup, il n'y a rien à faire en mise en scène. Mais je n'ai pas pu m'empêcher. De représenter des batailles avec différentes façons, au fur et à mesure aussi que la
pièce allégories avance. En fait.
Oui, des allégories oui. Par exemple, il n'y avait aucune trace de sang, aucune goutte de sang sur le plateau. C'était juste des rubans rouges qu'on tirait comme ça du corps des acteurs. Et plus ça avançait dans l'histoire, plus la guerre était violente et effectivement technologique aussi, parce que c'est l'invention des armes à feu, etc. Donc voilà, ça se déplaçait. Et puis, il y a cette Jeanne d'Arc dans la première partie d'Henri VI. Alors, c'est un Anglais qui écrit au XVIe siècle.
Shakespeare.
Jeanne d'Arc est une sorcière dans la pièce. Une sorcière est une putain. Il s'est dit comme ça. Les Français sont verbeux, tout le temps à référencer. Ils sont tout le temps en train de faire des citations, des références littéraires, etc. Ils sont très, très drôle et grotesque sous la plume de Shakespeare. Et c'est intéressant parce que Jeanne d'Arc, moi qui suis née à Rouen, qui suis née à la clinique Jeanne d'Arc, qui habite pas loin de la rue Jeanne d'Arc, qui suis allée au lycée Jeanne d'Arc, dans cette ville qui s'est fait sur cette figure, tout à coup, Jeanne d'Arc est complètement à l'opposé de ce qu'en tout cas on en fait.
Vous en faites quand même un très beau personnage.
Je lui ai rendu hommage parce que normalement, dans la pièce, elle est sortie de scène et emmenée comme ça, comme une hystérique. Voilà.
Alors que là, il y a beaucoup de dignité.
Remis le bûcher. J'ai pas pu m'en empêcher.
Ce sont des chaises. Mais enfin,
voilà. Ils brûlent des chaises d'église et ils la mettent dessus. Et effectivement, le bûcher était en scène. Après, ce qui était assez drôle, faut pas oublier aussi que les rôles de femmes à l'époque étaient joués par des hommes. Oui. Donc, ça devait rajouter encore plus la question du travestissement, de grotesque à ce personnage.
Alors, les spectateurs ont dit, on a vu Game of Thrones.
Ah.
Parce que, évidemment, tout ce dont vous parlez, Thomas Joly, c'est-à-dire cette culture, la nôtre, des séries, de ce qui est la puissance, la grande puissance de narration aujourd'hui, d'une certaine manière, elle est projetée sur ce théâtre, surtout quand ça dure 18 heures.
Alors, est-ce qu'on pourrait tenter l'hypothèse inverse?
Allons-y.
Que certainement, les séries ont emprunté à Shakespeare beaucoup et Game of Thrones notamment. Alors, je vais vous confier quelque chose. Quand j'ai commencé à travailler sur Henri VI en 2009, la première saison de cette série Game of Thrones sortait. Et un ami m'a dit « Ah, faut absolument que tu regardes parce que ça ressemble vachement à Henri VI ». J'ai regardé 3 épisodes et je me suis dit « Très bien, je ne vais absolument pas regarder ça parce que c'est une adaptation, mais quand même très inspirée du Henri VI de Shakespeare. Assez inspirée pour que les personnages se ressemblent, Lancaster, Lannister,
bien sûr.
Stark, York, enfin bon, on est quand même, voilà, et puis des figures de personnages, on n'est pas loin de Richard III, et puis des intrigues aussi. Donc je n'ai pas du tout, me suis pas du tout inspiré de ça, et effectivement, l'auteur de Game of Thrones qui s'appelle
George
Martin, oui, c'est ça, l'a avoué. Il l'a dit. Donc, pour le coup, je pense que c'est davantage les séries qui se sont inspirées de Shakespeare. Et il n'y a pas que celle-ci, parce que moi, je trouve que, par exemple, dans Breaking Bad, on trouve du Macbeth dans le couple. House of Cards, évidemment, c'est le même principe que Richard III. Dans Lost, il y a un peu de la tempête aussi. Bon, bref, en tout cas, Shakespeare est une mine d'or pour les écrivains. Il a tellement brassé, il a tellement ouvert la narration que c'est une source inépuisable. Ouais.
C'est Shakespeare qui vous amène à Sénèque, on va en parler, c'est d'ailleurs dans cet ordre-là, mais entre à Avignon en 2017, vous mettez en scène un spectacle qui m'avait beaucoup frappé, qui s'appelait « Le radeau de la Méduse », d'abord qui exhumait un texte pas très connu en France quand même, hein, qui est le texte de Georg Kaiser, qui est un auteur allemand expressionniste qui meurt en 1945, c'est ça,
tout à fait.
Et qui a écrit cette pièce en 1940.
Ouais, entre 40 et 43.
Entre 40 et 43, qui est une histoire vraie, c'est l'histoire d'enfants qui quittent une ville bombardée pour aller au Canada. Ce sont en fait des enfants anglais. Et le vapeur est torpillé.
Tout à fait. Et 12 enfants se retrouvent sur un canot de sauvetage en plein milieu de l'Atlantique.
12,
et jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y a un 13e à bord. Un tout petit garçon qui s'appelle d'ailleurs Petit Renard, qui ne parle pas, qui est différent, qui est roux. Et qui, du coup, va semer le trouble au cœur du canot, puisque ces enfants, ayant interprété la Bible et estimant que 13 est un chiffre qui porte malheur et qu'ils ne peuvent pas manger à 13 sur ce bateau, vont jusqu'à décider de tuer l'un des le 13e enfant, et plutôt le plus faible, celui qui ne parle pas, pour pouvoir être sauvé. Et c'est d'ailleurs assez ironique, puisque c'est ce qui se passe, mais on ne saura jamais si c'était parce qu'ils ont commis cet acte abominable ou non.
Et là, il y a une profondeur, on va revenir effectivement avec Thieste sur le festin cannibale, évidemment, mais il y a déjà quelque chose qui est très intéressant, me semble-t-il, du point de vue du rapport entre l'histoire et le théâtre. C'est que, bon, on est évidemment sur une pièce qui parle de manière dramatique des années 40, mais qui en parle en faisant allusion, le radeau de la Méduse, à une période plus ancienne, qui est au fond là ce qui sépare Shakespeare du règne d'Henri VI,
tout à fait.
Une centaine d'années. Voilà, et qui est en fait agi par une histoire plus ancienne encore, qui est biblique. Et nous, quand on la voit en 2017, et on pense à d'autres enfants sur d'autres bateaux.
Tout
et ça, vous nous le suggérez, mais vous ne nous l'imposez pas. C'est, je dirais, votre art poétique, c'est de ne pas laisser ces œuvres du passé éclabousser par les hantises du présent, c'est ça ?
Il y a de ça, c'est vrai. Je crois beaucoup à l'intelligence et au discernement du spectateur et de la spectatrice. Et je crois aussi que le théâtre est politique à partir du moment où il nous fait penser et pas quand il nous dit quoi penser. Si je resserre effectivement cette histoire sur, et vous avez raison, d'autres bateaux qui tous les jours sont abandonnés, enfin errent sur les mers, et que les passagers de ces bateaux sont en proie à la faim et puis à des dangers mortels, eh bien je réduis, entre guillemets, parce que c'est pas une réduction, mais nous ne parlons que d'une seule chose. Alors que vous avez raison, on peut faire comme ça un grand arc à travers le temps, à travers les époques, effectivement, pour pouvoir avoir les angoisses et les appréhensions du présent dans une pièce qui date de 1940, traitant elle-même d'un sujet plus ancien et encore plus ancien. Oui, ça c'est sûr.
Et donc là, je crois que quand même dans votre théâtre arrive une gravité et une cruauté aussi qui va culminer donc cet été dans la cour d'honneur. C'était magnifique quand même.
Merci,
sans
Patrick
doute
Boucheron.
De oui, mais c'est je me mets à votre place, enfin vous avez quel âge?
36 ans.
Bon. C'est pas si jeune que ça d'ailleurs,
parce que c'est
un âge où on peut avoir des responsabilités dans le monde du théâtre. Enfin, quand même, ça, vous avez pris toute la mesure en fait de la cour d'honneur, aussi parce que vous connaissiez, on va y revenir, l'histoire du Festival d'Avignon, mais vous l'avez complètement investi.
Oui, l'idée, quand on nous propose la cour d'honneur, c'est en tout cas
faire les choses à moitié.
Ouais, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'on me la proposera pas deux fois. Je pensais même pas qu'on me la proposerait une fois. Donc, on me propose d'investir ce lieu. J'ai envie de travailler pour elle, avec elle, en elle. Absolument. Et puisque le spectacle est en tournée aussi maintenant dans des salles, disons, plus classiques, doit faire une autre version du spectacle pour la tournée dans les théâtres fermés. Mais la cour d'honneur est ce lieu, pour le coup, chargé d'histoire. Ça, histoire du théâtre aussi, et que moi j'ai des fantômes qui me hantent d'images, d'imagerie, de metteurs en scène, d'acteurs qui ont fait des choses incroyables ici, et que je me donne du coup l'occasion, en choisissant cette pièce de théâtre, du théâtre romain, qui se passait devant une façade de palais, d'utiliser finalement cette façade de palais comme seul décor, même si j'ai mis d'autres choses sur le plateau, mais de pouvoir voilà utiliser ce qu'elle est pour ce que demande le texte.
Et le texte, justement, c'était la traduction de Florence Dupont qui vous l'offrait. On est dans la démesure d'un théâtre de cruauté qui, d'une certaine manière, montre que, au fond, la violence peut avoir des limites, mais la vengeance n'en a aucune.
C'est ça. Tout à fait.
Il y a des limites. C'est ça qui se passe.
Il y a des limites aux crimes ordinaires, mais il n'y en a pas à la vengeance.
Et ce que montre Florence Dupont, c'est que, au fond, ce théâtre antique, c'est une invention du théâtre néo-latin, parce que c'est au XVIe siècle qu'on invente les auteurs antiques. Je ne dis pas que Sénèque n'existait pas, mais il y avait des textes de Sénèque qui existaient, des textes moraux, et dans lesquels, au fond, le XVIe siècle reconnaît, parce que ce sont des dialogues, ce que le XVIe siècle appelle du théâtre.
Donc, tout à fait.
Passons de Shakespeare à Sénèque, vous êtes historien. Vous êtes historien du texte, finalement.
Eh ben oui, d'une certaine manière. Ça me plaît bien ce que vous dites là, Patrick Boucheron. Et puis en plus, pour rajouter à ça, ce théâtre, certes, ça, on le cite comme théâtre, mais quel théâtre s'agit-il? Et qu'est-ce qu'on fait de ce théâtre aujourd'hui? Quand Florence Dupont, et c'est là où l'hybridation et que tous ces mouvements esthétiques finalement se répondent et pour moi sont une manne d'inspiration immense, et que Florence Dupont elle-même me dit ce qui ressemble le plus aujourd'hui à ce théâtre, c'est la science-fiction.
Donc vous allez installer des extraterrestres en fait dans la cour d'honneur.
Bah vous dites bien de dire extraterrestres, parce qu'en fait c'est vraiment pour moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit tout de suite à Florence Dupont, excusez-moi Florence, mais j'ai l'impression que c'est un théâtre extraterrestre. C'est-à-dire que la civilisation était tellement autre, les règles tellement différentes, la façon de vivre, la façon d'être tout simplement. De qui, par exemple, le simple fait que les Romains étaient nommés, avaient leur nomen à 14 ans. C'est-à-dire que nous aujourd'hui avec nos téléphones et nos selfies et notre hypertrophie de nous-mêmes, de notre identité, par exemple ces gens-là, les Romains avaient leur nom à 14 ans, ou bien simplement le fait que tout le monde connaissait cette histoire, comme aujourd'hui on connaît le Petit Poucé ou Blanche-Neige par exemple, et qu'ils ne venaient pas du tout voir une histoire et découvrir une histoire, ils venaient voir le plaisir de la variation, comment est-ce que l'auteur avait repris cette histoire, un petit peu comme l'a fait par exemple Joël Pommerat avec Cendrillon.
Oui.
Voilà. Où d'un coup le plaisir, nous Cendrillon on connaît l'histoire par cœur, mais le plaisir vient de des variations qu'il pose, etc. Donc c'est vraiment un théâtre joué le matin, en pleine journée, accompagné d'autres rites, d'autres rituels. Rien à voir avec aujourd'hui,
rien à
20h30,
voir.
Prendre son billet, aller voir un spectacle. Donc l'extraterrestre, c'était pas juste pour faire le lien avec la science-fiction, c'est que vraiment, il faut comprendre que ce théâtre est dans un autre monde, quoi.
Et vous disiez, Thomas Joly, vous disiez à vos acteurs, surtout ne jouez pas de rôle, ce sont pas des rôles,
non.
Ce sont pas des personnages, c'est des organismes.
Tout à fait.
Ah, vous aviez une...
Oui, ce terme, tout à fait.
Vous aviez une métaphore qui me plaisait bien, c'était la métaphore de l'huître.
Exact.
Hein,
quand
vous
on met du citron.
Tout quand à on fait. Met du citron,
vous venez de ça,
elle réagit.
Bah,
je me souviens, c'est
oui.
Mon métier de me souvenir.
En fait, oui, je leur disais ça parce que ce sont... Par exemple, les Romains, des gens qui vivent dans un monde de signes, ils interprètent des signes en permanence. Et les personnages dans Thieste ne sont pas, je sais pas qu'ils sont pas cérébrés, mais ils n'ont pas de psychologie.
Ils vont se laisser agir en fait par des trucs qui leur tombent du ciel.
C'est ça. Ou de l'extérieur.
Ou de l'extérieur.
Ou de l'intérieur.
Et c'est pour ça qu'il y avait des lasers. C'est pour ça qu'il y avait.
C'est pour ça que la musique, par exemple, prenait tous les mouvements intérieurs parce que les organes sont personnifiés. C'est pour ça aussi qu'on est dans la science-fiction. C'est-à-dire que dans Thieste, le ventre est personnifié, le bras est personnifié, tout comme l'est la façade d'un palais ou Jupiter qui frappe à la voûte céleste. Donc on est vraiment dans un monde fantastique de signes intérieur et extérieur et avec ces personnages au milieu comme des organismes.
Et là, je suis désolé, Thomas Joly, de vous le dire, mais vous êtes vraiment historien lorsque vous dépaysez à ce point l'histoire ancienne. Vous en montrez toute l'étrangeté. Ça a eu l'air de vous faire plaisir tout à l'heure que je vous dise ça. Pour goûter ce plaisir, on va peut-être écouter un disque. Qu'est-ce que vous nous avez amené?
Ah, j'ai ramené mon enfance de Barbara parce que.
On l'écoute.
On l'écoute et on en
parle
après.
Et puis on en parle après, d'accord ?
Très bien.
J'ai tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai tort, j'ai voulu revoir le coteau glisse le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas les voix du passé qui nous hantent, les reflets de sol et le blâme. Je me suis couché sous l'arbre et c'était les mêmes odeurs. J'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme un source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, l'italien fauve dans l'allée. Le puits, tout, j'ai tout retrouvé. Hélas.
France Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
Matière à penser, toujours en compagnie de Thomas Joly, qui nous disait qu'on était comme des huîtres, enfin les Romains l'étaient, agis par une goutte de citron. Alors avec Barbara, ça marche, hein, ça marche à tous les coups.
Ça marche. Mais alors, pour le coup, elle est actrice, ça, très clairement. Je ne sais pas si son histoire, l'histoire qu'elle raconte dans cette chanson ou dans les autres, est vraie, mais moi, j'ai l'impression, mon père n'est pas mort, et il n'est pas mort à Nantes. Mais quand j'écoute Nantes, j'ai vraiment une empathie très grande et je ressens la douleur. Elle arrive à travailler avec une matière qui est celle du passé, qui est celle de l'intériorité, qui, comme aucune autre artiste, me touche. Et en plus, il se trouve que je travaille sur son œuvre en ce moment avec une chanteuse qui s'appelle Raphaël Lanader, aussi connue sous le nom de Elle. Et on brasse toute cette matière d'interview, de chansons évidemment, de musique, pour créer un spectacle. Et donc c'est passionnant et elle m'a fait beaucoup de bien aussi parce que c'est une personne qui n'a pas de stratégie. Elle est juste, elle est là.
Voilà. Donc mon enfance, c'est aussi la vôtre, même si on n'a pas eu la même.
Mais c'est ça.
Et on disait tout à l'heure qu'être historien, c'est écarter le passé de soi-même pour ne pas l'éclabousser de nos affects. Mais c'est en même temps aussi, évidemment, c'est de ça dont on va parler dans cette deuxième partie d'émission, le prendre avec nous.
La se l'approprier. Tout à fait. Et quand on fait du théâtre et qu'on va chercher comme ça des auteurs qui ont, dans des contextes donnés, écrit des pièces données, et en plus de ça, si ces pièces sont des matières historiques, on est bien obligé, pour les rendre, ces pièces, pour les remettre en 3D, et bien de s'approprier l'histoire.
Alors, j'ai pas tout à fait oublié, Thomas Joly, qu'on devait parler de la guerre. Et justement, à la fin de Thieste, ouais. Il y a une inscription de Sénèque qui nous rappelle qu'on connaît surtout Sénèque comme moraliste.
Ouais.
Et c'est un texte qui est donc du Sénèque moraliste, auteur de La colère,
je crois. Tout à fait.
Et que vous traduisez ainsi, « Mauvais, nous vivons parmi nos pareils, une seule chose peut nous rendre la paix, c'est un traité d'indulgence mutuelle. » Convention. Alors en fait, on peut pinailler sur la traduction, c'est disons un accord fondé sur des concessions réciproques. Mais vous dites, pour rendre la paix, donc pour sortir de la guerre, un traité d'indulgence mutuelle.
Oui.
Vous n'avez pas eu peur que ça...
Ça frotte, c'est
ouais,
sûr.
Ça frotte un peu.
Ça frotte, mais c'est aussi parce que... Alors, tiens, historiquement, ça va être intéressant. Savez-vous, Patrick Boucheron, qu'à la fin de chaque tragédie antique, en romaine, arrivait sur le... Donc, à la fin du texte, c'est Atrée et Thieste, et Atrée qui finit par dire... Thieste qui dit « Je t'ai livré... Les dieux reviendront et me vengeront. Je t'ai livré aux dieux pour qu'ils te punissent et te tourmentent. » Et Atrée répond « Et moi, je t'ai livré à tes fils pour qu'ils te punissent et te tourmentent. »
Mais on peut pas laisser les gens comme ça.
Voilà, fin. Eh bien, savez-vous qu'à la fin des pièces antiques tragiques, arrivaient deux acteurs comiques qui faisaient un sketch... ce qu'on peut appeler un sketch en tout cas, et au premier éclat de rire général, alors la pièce était terminée. On avait refermé comme refermé le flot lacrymal global dans lequel tous les Romains étaient venus pour ça, c'est-à-dire pour un consensus d'empathie, un consensus passionnel de larmes, voilà. Et il fallait bloquer cela, sinon on pouvait avoir des maladies, etc. etc. Et la représentation se terminait comme ça, par une petite pirouette comique. Et aujourd'hui, j'ai failli le faire. J'ai failli demander
c'était
à deux
acteurs.
C'était
pas un cadeau pour les humoristes. Hein.
Voilà, c'est ça. J'ai failli le faire, mais j'avais aucun moyen de le tester avec du public avant d'arriver à la cour.
La pièce romaine, si je vous suis bien, elle ne s'arrêtait pas au premier éclat de rire, mais dans le rire général. Il
Exactement.
Faut que
tout le monde rit.
Pour que, pour qu'on sorte de la guerre finalement.
Et c'est ça. Pour que finalement, on sorte de la guerre, que le consensus passionnel soit, terminé. Et j'ai pas pu le faire parce que les acteurs, je pouvais pas les faire répéter avec un public. Donc du coup, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, redonner une petite phrase un peu salvatrice, quelque chose de salvateur à la fin. Et ça, le théâtre, parce que on peut parler d'une, pas forcément de la guerre comme événement, mais d'une espèce de guerre, de tension ou de dissension continue. Il y a une chose que nous dit le théâtre depuis le toujours, que chaque rideau qui se lève nous dit, dans tous les théâtres du monde et à toutes les époques, nous sommes tous vivants au même endroit en même temps. Et que cette réalité-là, on ne peut pas passer à côté. C'est-à-dire qu'on est bien obligé, du moins au temps où on est vivant, de vivre ensemble. On est voué à ça. Nous sommes tous vivants, vous, moi, ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, nous sommes tous vivants au même endroit en même temps. Alors le même endroit, c'est effectivement pas forcément la même ville, mais en tout cas le même monde. Et donc ça, je pense que cette phrase de l'indulgence mutuelle, plutôt que d'essayer de chercher des échappatoires à se vivre ensemble en disant oui mais non, eux non, oui, eux, je sais pas, eux, elles, non, selon les politiques, les religions ou je ne sais quoi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va bien falloir trouver la façon d'être ensemble et peut-être que ça passe par un traité d'indulgence mutuelle. Et donc quand je dis indulgence, c'est aussi, je sais pas, d'acceptation, de compréhension, d'accueil de l'autre, des autres et de toute l'altérité en fait.
Et de même que vous n'avez pas hésité dans la cour d'honneur à faire effectivement montre de toute la démesure possible de ce théâtre de cruauté, vous n'avez pas hésité non plus, ça a pu vous être reproché, vous n'avez pas hésité à dire cette cet espoir de réconciliation, de réparation. Ça me frappe beaucoup, Thomas Joly, c'est-à-dire que vous dites, vous n'hésitez pas à dire, le théâtre c'est pour réparer.
Oui. Très clairement, je le crois très fort.
C'est pour réconcilier et c'est même pour consoler.
Je le crois. Il y a plein d'exemples qui le disent. Bon, le théâtre romain, par exemple, était quand même un théâtre qui s'est inventé, enfin qui a émergé à Rome. Et ça, c'est Pline l'Ancien qui le dit. Parce qu'il y avait la peste à Rome et que malgré tout, les rituels, les offrandes, etc. aux dieux, rien n'apaisait ce mal. Et qu'ils ont fait venir d'Étrurie des danseurs. Des artistes, et que tout à coup la peste s'est résorbée, en tout cas voilà, le mal a été dissipé, et donc à partir de là le théâtre est arrivé à Rome venant de l'étranger comme curateur pour le coup. On retrouve par exemple ça chez Jeanne Laurent après la Seconde Guerre mondiale.
On va parler de Jeanne Laurent, vous aimez beaucoup
parler
de Jeanne Laurent,
je
parce
l'aime
que,
beaucoup.
D'abord il faut dire que on revient à Avignon, vous avez fait l'histoire du festival d'Avignon
aussi. Hein,
voilà. Et le Festival d'Avignon, c'est une utopie d'après-guerre.
Complètement.
C'est une manière de sortir de la guerre.
C'est une manière de sortir de la guerre, de réparer un pays meurtri, de dire à un moment donné, le théâtre va être un outil de reconstruction et on va en mettre partout.
Partout. Et ça, vous êtes très sensible à cette idée, à cette histoire. Vous l'avez d'ailleurs très joliment mise en scène dans des petites vidéos que je conseille
pour la télévision,
aux plus jeunes, qui s'appelle Le Théâtre.
Le Théâtre.
Et qui essaye de casser des idées reçues, c'est trop cher, c'est trop loin, c'est trop parisien, on n'y comprend rien, etc. Et vous faites l'histoire de la décentralisation.
Tout à fait.
Donc il y a Jean Vilar, mais il y a aussi Jeanne Laurent.
Ça démarre par Jeanne Laurent d'abord. Et qui décide d'installer du théâtre partout, sur tout le territoire, et surtout qui met en place une politique qui dit, et c'est quand même pas rien, le théâtre va structurer, consoler, réconcilier le pays. Et Jean Vilar, évidemment, travaille avec Jeanne Laurent, fonde le Festival d'Avignon, et dès la deuxième année du Festival d'Avignon, propose un auteur allemand. On est en 48. Un auteur allemand qui est Kleist, et dans une volonté de réconciliation avec nos voisins, par l'art, par le théâtre. Et moi, cette idée-là que le théâtre est non seulement curateur, fédérateur, rassembleur, et qu'il est le moyen aussi de vivre ensemble, enfin en tout cas un outil pour le vivre ensemble, est une idée qui me tient très fort à cœur. Et c'est pour ça que, bien sûr, je fais des spectacles, oui, qu'on voit en tournée ou à Avignon ou à l'Odéon ou quoi. Bon, mais je suis aussi un directeur de compagnie installé en Normandie qui travaille au quotidien avec les publics, avec le territoire, avec les gens, pour dire un artiste n'est pas inutile. Un oui. artiste est peut-être un ciment, peut-être le ciment de... D'ailleurs, le théâtre a été un ciment, a été inventé pour la cité, avec la cité, dans la cité, de la cité, je ne sais pas comment le dire. Et je pense que ça, c'est une chose qu'il faut reconquérir.
Jeanne Laurence était la fille d'agriculteurs bretons, ouais. D'ailleurs. D'accord, et ouais. elle était elle-même... Tiens, vous savez qu'elle a fait une thèse.
Tiens, non.
Eh oui, elle était chartiste. Ouais. Elle a fait une thèse dans les années, en 1930, je crois, sur la Bretagne, la Quévèze, je crois, c'est-à-dire la manière de transmettre les biens dans la Bretagne d'ancien régime. C'est toute une histoire, qu'il faut raconter, mm-hmm. et que vous avez raconté. D'ailleurs, souvent, vous allez aux archives pour faire du théâtre. Racontez-nous cette aventure de l'histoire
du festival. Incroyable. Olivier Pim a fait cette proposition en 2007. De raconter avec un épisode par jour l'histoire du Festival d'Avignon. Et donc on a eu la grande chance d'aller à la Maison Jean Villard dans les archives, parce que les archives sont là-bas, et de retrouver les notes manuscrites. La toute première affiche où il y a une faute d'impression avec le petit carré collé dessus pour rectifier la date ou l'heure, je ne sais plus. Et de retrouver, cette utopie via les outils qu'ils utilisaient, les matériaux, et puis les notes qu'ils s'envoyaient. Voir vraiment qu'à un moment donné, il y a un projet de société derrière ce festival. C'est pas juste des artistes qui viennent jouer des pièces. Il y a un vrai projet de consolation. Et je crois que le théâtre a cette vertu-là. J'y crois fort, même dans un atelier avec des amateurs ou des lycéens. Aujourd'hui, par exemple, il y a les pièces, très bien, mais il y a aussi cet incroyable bouleversement qui se passe avec les réseaux sociaux sur le langage. Et
l'éloquence.
Ouais, l'éloquence, mais aussi l'expression. On a toujours parlé de liberté d'expression.
Oui.
Mais on peut parler aujourd'hui d'expression libérée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire, on me dit
la prise de parole, quoi.
Voilà, ouais. Prise de parole, on peut dire. Alors, on peut dire des trucs que ça permet de faire des choses formidables. Exemple, MeToo, c'est bien. Ou bien alors, les humoristes qui se moquent des minorités n'ont jamais été drôles, mais maintenant on le dit. Mmh. On peut le dire, on peut l'exprimer. Et puis, ça dit le pire aussi. Dès qu'on a une idée extrémiste ou quelque chose qui est nauséabond, eh bien, on peut le dire aussi et trouver des échos partout, etc. Bon, du coup, la formulation, l'expression qui se libère, il va même falloir des outils pour ça. Des outils d'accueil, des outils de formulation, des outils de débat. Et le théâtre est l'art du langage. Je le vois bien avec les lycéens, quand je travaille avec des lycéens ou dans des collèges ou avec les amateurs, que c'est vraiment pour soi, pour sa pensée, pour la langue, pour le rapport à l'autre, un outil formidable, d'autant plus en ce moment, et notamment, certainement, pour la réconciliation.
Oui, parce que je sens quand même une inquiétude lorsque vous parlez du théâtre. Évidemment, vous avez de formidables succès. Voilà, tout le monde vous loue.
Je suis heureux.
Oui, très bien. Certains même commencent à faire la fine bouche, peut-être, devant un théâtre qui ne rechigne pas à susciter de l'émotion, de l'enthousiasme qui va vers le jeune public. Vous dites, au fond, je comprends pas cette expression « théâtre populaire », elle est tautologique. Qu'est-ce que le théâtre pourrait être d'autre que populaire ?
Tout à fait.
Et en même temps, lorsqu'on est à Avignon, lorsqu'on voit peut-être se décoller pendant, je dirais, le festival, cette utopie située, mais un peu flottante, sur une ville qui, d'une certaine manière, ne l'accueille que temporairement. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet, Thomas Joly ? Est-ce que vous ne redoutez pas que, au fond, cette belle utopie de l'après-guerre flotte sur notre société, mais ne morde plus dedans ?
Oui, il faut faire mieux.
Il
faut faire mieux. Il faut réactiver ça, je pense. Je pense que le théâtre s'est désincarné. Voilà. Qu'il n'est plus incarné, quand je dis ça, c'est qu'il n'est plus incarné par des acteurs qui sont en présence dans les villes ou des metteurs en scène, qui ne sont pas pris en charge physiquement par quelqu'un qu'on identifie comme étant un metteur en scène, un acteur, etc. Et les lieux, par exemple, avant, alors pas tous, et il y a encore plein de choses qui se font qui sont très bien, avec les relations publiques, etc. Je ne veux vraiment, vraiment pas cracher du tout sur ce qui se fait, mais
non, il s'agit pas de dire ça. Il s'agit de faire mieux.
Mieux.
Ce qu'on a à faire, mieux.
Tout à fait.
Plus sérieusement, de manière plus ouverte.
Et plus inventive.
Plus inventive.
Je pense que les théâtres ont besoin de se réouvrir sur les cités. Je pense que il faut une perméabilité entre les murs et les rues, les places, les scènes et les espaces même dans les théâtres. Je crois que la convivialité doit être réactivée. Je pense que ces lieux ne doivent pas seulement être des lieux où on vient en achetant un ticket, voyant un spectacle et en repartant après. Je pense qu'il faut qu'on vienne pour y manger, pour y boire, pour y travailler,
comme
pour y
rencontrer. Comme les Romains.
Exactement. Exactement.
J'arriverai pas à le dire.
Les Élisabétains.
Eh ben, voyez, c'est pour ça que vous êtes acteur et pas moi.
De remettre la vie dans ces lieux et la vie de la cité. Vraiment, je le crois. Malraux disait que les centres dramatiques devaient être les cathédrales modernes. Voilà. En fait, les cathédrales, il faut, bon, moi, je crois, j'entends ça comme ça, en tout cas, les cathédrales comme à l'époque des cathédrales, pas les cathédrales telles qu'on les voit aujourd'hui, c'est-à-dire des lieux, ouverts, coloré, vivant, habité, et pas ces pierres toutes blanches, voire un peu grisâtres, dans lesquelles on n'ose même pas parler, etc. Bon, voilà, il faut des cathédrales, des lieux de vie, au cœur de la cité. Et alors, je suis pas inquiet parce que le théâtre a toujours trouvé son chemin, comme l'eau. Mais par contre, j'essaye de...
Il faut bosser.
Voilà, je m'y mets, quoi. D'où aussi, voilà, vous parlez des jeunes, etc. Mais je veux...
Donc concrètement, ça veut dire quoi? Parce que ce que vous avez fait, déjà, ça c'est très bien, vous avez mis, à une petite compagnie, au départ, une petite compagnie rouennaise, voilà, de copains qui ont travaillé au TNB de Rennes, dans la cour d'honneur.
Ouais.
Ça, c'est formidable.
Ouais, c'est
maintenant, Thieste, Thomas Joly, ça bouge, ça se diffuse dans le territoire.
Oui.
Et après, le coup d'après, c'est quoi?
Ah, c'est une bonne question. Le coup d'après, ce sera... Je suis plus en train de réfléchir à une pièce. Je suis plus en train de réfléchir à un opéra. Je suis en train de réfléchir à quelque chose, peut-être postuler à un endroit pour diriger un lieu, justement, pour essayer de mettre en œuvre ce que je suis en train de dire. Je
pense dans un territoire. Campagne, là, dans un territoire. Bon, oui, d'accord, on vous a entendu.
Je suis pas en train de faire comme... Non, mais vraiment, parce que c'est une question qui se pose. C'est-à-dire, les lieux tels qu'ils sont aujourd'hui doivent, à mon avis, être réinventés. Je n'ai pas envie d'aller dans un lieu pour être contraint. J'aimerais bien réinventer la question de ces lieux. Mais
Investir, occuper, réinventer.
Mais pour ça, il faut une politique culturelle aussi. Il faut, voilà, un dynamisme, une troupe. Avec moi, ça je l'ai, mais enfin, voilà.
Eh ben, allons-y.
Allons-y.
Merci Thomas Joly.
Merci Patrick Boucheron.
Matière à penser, Thomas Joly, Stéphane Desmonts, Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. La semaine prochaine, c'est Antoine Garapon qui nous parlera à nouveau des victimes, nouvelle semaine sur les victimes. Bonne soirée.